chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons donc notre très importante série. Nous arrivons au CD numéro 4. Et vous savez que le thème principal, c'est « Tu n'as qu'une seule vie ». Elle est bientôt passée. Tu n'as qu'un aller simple dans ta vie. Donc le thème pour aujourd'hui, c'est le risque perdre notre vie ou la gâcher. Chers amis, si nous nous laissons guider par une seule passion, celle de célébrer la grandeur de Jésus-Christ par notre vie et par notre mort, et si la vie qui l'honore le plus est celle de l'amour qui coûte, alors l'existence est synonyme de risque. Et le risque est une bonne chose. Or, le fuir, cela conduit à une vie gâchée. Ce CD numéro 4 ne va pas du tout convenir à un certain nombre de chrétiens. Et je le comprends. Qu'est-ce que le risque ? Ma définition du risque est très simple. C'est un acte qui nous expose à d'éventuelles pertes ou blessures. En prenant un risque, nous pouvons perdre de l'argent, nous pouvons perdre la face, nous pouvons perdre notre santé ou même notre vie. Et le pire, c'est qu'en prenant un risque, nous pouvons mettre la vie des autres en danger, et pas seulement la nôtre. Leur vie est aussi en jeu. Cela signifie-t-il qu'une personne pleine de sagesse et d'amour ne va jamais prendre de risques? Est-il sage de nous exposer au dénuement? Est-ce faire preuve d'amour que de mettre la vie des autres en danger? Perdre notre vie, est-ce synonyme de la gâcher? Eh bien, cela dépend. Bien sûr, nous pouvons gâcher notre vie en péchant de mille et une façons et finir par en mourir. Dans ce cas, perdre notre vie est synonyme de la gâcher. Mais ce n'est pas toujours le cas. Qu'en est-il si les circonstances sont telles que leur refus de prendre des risques met notre vie en péril? Il n'est pas toujours sage de jouer la carte de la sécurité. Et que penser? Que penser d'une prise de risque réussie dont les bénéfices profiteraient à plusieurs, alors que son échec ne serait préjudiciable que à nous-mêmes? Ce n'est pas forcément de faire preuve d'amour que de privilégier la sécurité et le confort quand nous pourrions contribuer à accomplir quelque chose de grandiose pour la cause de Jésus-Christ et pour le bien d'autrui en acceptant de prendre un risque. Chers amis, le risque fait donc partie intégrante de notre vie. Pourquoi le risque? Est-ce à cause de l'ignorance? Sans l'ignorance, il n'y aurait pas de risque. Le risque est possible parce que nous ignorons l'issue des événements. Cela signifie que Dieu ne peut pas prendre de risque, car lui, il connaît en effet le résultat de tous ces décrets avant même qu'ils ne soient exécutés. Voilà ce qui fait la différence entre le Dieu vivant et les idoles des nations. Et là, j'aimerais que vous notiez quelques citations bibliques que vous pourrez plus tard consulter dans votre Bible. Ésaïe 41, verset 23, chapitre 42, verset 8 et 9, chapitre 44, verset 6 à 8, toujours Ésaïe, chapitre 45, verset 21, chapitre 46, verset 8 à 11, et le chapitre 48, verset 3. Étant donné qu'il connaît le résultat de ses actions avant qu'elles ne se produisent, ses plans sont faits en conséquence. Son omniscience, elle élimine toute possibilité de courir un risque. En revanche, il n'en va pas du tout autrement en ce qui nous concerne. Car nous ne sommes pas Dieu, nous sommes totalement ignorants. Nous ignorons ce qui se produira demain. Dieu ne nous livre pas le détail de ses intentions pour ce qui nous concerne, par exemple, la journée de demain, ni même des 5 années à venir. C'est donc absolument évident. Dieu a voulu que nous menions notre vie en restant dans l'ignorance et dans l'incertitude quant au résultat de nos actes. Il n'y a pas du tout de méchanceté là-dedans. Au contraire, Dieu déclare, par exemple, en Jacques, chapitre 4, versets 13 à 15, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année. Là, nous y ferons des affaires et nous gagnerons beaucoup d'argent. » Vous, nous y compris, qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car nous ne savons absolument pas ce qui peut arriver demain, même avec tout notre arsenal sophistiqué et intelligence artificielle. En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez plutôt dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Vous ignorez, par exemple, si votre cœur ne va pas cesser de battre avant que vous n'ayez achevé l'écoute de ce CD, ça peut arriver. Même avec des sportifs de haut niveau. Nous ignorons si, dans le courant de la semaine prochaine, un conducteur de la voie opposée ne va pas nous percuter de plein fouet, ou si la nourriture prise au restaurant ne contient pas des salmonelles, ou si une rupture d'anévrisme ne va pas nous laisser paralyser avant la fin de la semaine, ou encore si un homme ne va pas utiliser son arme comme à Marseille et dans beaucoup d'autres villes, en Amérique, etc., contre nous, cela même dans un centre commercial. Nous ne sommes donc pas Dieu. Nous ignorons ce qui va se passer demain. Voyez-vous, la sécurité c'est en quelque sorte un mythe. Soyons honnêtes. Le risque fait donc partie intégrante de notre vie dans sa finitude. Nous ne pouvons y échapper, même si nous le désirons. L'ignorance et l'incertitude quant à l'avenir, tout cela fait partie de notre bagage de naissance. Tous nos plans peuvent échouer en raison de milliers de facteurs inconnus, que nous restions chez nous sous la couette, tranquille, ou que nous prenions l'autoroute. L'un de mes objectifs, c'est de renverser le mythe de la sécurité afin de nous libérer, pour ainsi dire, du mirage de la sécurité. En effet, c'est bien d'un mirage qu'il s'agit. La sécurité n'existe pas. Quelle que soit la direction empruntée, nous nous trouvons inévitablement exposés à des facteurs inconnus, à des éléments qui échappent à notre contrôle. Quelle ironie tragique ! Le mirage de la sécurité nous fait prendre quotidiennement des risques pour notre bénéfice personnel, mais lorsqu'il s'agit d'emprunter le chemin d'amour, d'amour du calvaire, et de prendre des risques pour le bien des autres, alors là, tout nous paralyse. Nous nous laissons donc berner et imaginons que cela pourrait mettre en péril notre sécurité alors que celle-ci n'est même pas réelle. Comment est-ce que je compte briser le mythe de la sécurité et de nous dégager de son emprise? Eh bien, c'est en démontrant par la Sainte Bible elle-même qu'il est juste de prendre des risques pour la cause de Jésus-Christ, et que ne pas le faire, cela est synonyme de vie gâchée. Considérons un peu le contexte de 2 Samuel chapitre 10. Là, il y a des Amalécites qui avaient outragé les messagers d'Israël et s'était rendu odieux à David. Afin de se protéger, ils avaient enrôlé des Syriens pour combattre à leur côté contre Israël. Joab, le chef de l'armée d'Israël, s'était retrouvé cerné avec les Amalécites d'un côté et les Syriens de l'autre. Il avait alors divisé ses troupes et chargé son frère Abishai de mener une partie d'entre elles au combat, prenant lui-même le commandement de l'autre. Au verset 11, ils se font le serment de céder l'un l'autre. Ensuite, ces paroles magnifiques sont prononcées. « Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Que signifiaient les mots « que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon » ? Eh bien, simplement, que Joab avait pris des décisions stratégiques pour les villes du peuple de Dieu, mais qu'il en ignorait totalement le résultat. N'ayant pas reçu de révélation spécifique de la part de Dieu, il avait dû faire un choix fondé sur une sagesse sanctifiée. Je dis bien sanctifiée. Soit il décidait de prendre des risques, soit il prenait la fuite. Alors il a fait son choix et il s'en est remis totalement à Yahvé l'Éternel pour les conséquences. C'était ce qu'il fallait vraiment faire. Joab dit, si je dois périr, eh bien je périrai. L'histoire de la reine d'Esther, ça, c'est un autre exemple de prise de risque courageuse pour l'amour et pour la gloire de l'Éternel. Mardochée vivait au 5e siècle avant notre ère, pendant l'exil des Juifs. Il avait une jeune cousine orpheline du nom d'Esther, qu'il avait adoptée comme sa fille. Elle avait grandi et elle est devenue une très très belle femme et avait été choisie par le roi perse Assur et russe pour devenir la reine. Haman, l'un des principaux princes de la cour, détestait Mardochée, et comment, ainsi que tous les Juifs. Et il a persuadé le roi de proclamer un décret visant leur extermination. Mardochée a prié Esther de comparaître devant le roi afin de plaider en faveur de son peuple. Esther connaissait parfaitement la loi royale qui lui interdisait de s'approcher du roi à moins d'y avoir été préalablement convié, car la sanction était tout simplement la mise à mort immédiate, sauf si le roi tendait son sceptre. Mais Esther savait aussi que la vie d'autres personnes était en jeu. Elle a donc envoyé la réponse que voici à Mardochée. Notez bien Esther chapitre 4, versets 15 à 16. Il est dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Ensuite, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, eh bien je périrai. Si je dois périr, je périrai. Que signifient ces mots ? Tout simplement que Esther ignorait tout du résultat de son action. N'ayant reçu de la part de Dieu aucune révélation particulière, elle a pris une décision fondée sur sa sagesse et sur son amour pour son peuple et sur sa confiance totale en l'Éternel. Soit elle prenait un risque, soit elle prenait la fuite. Elle ignorait totalement l'issue des événements. Ainsi, elle a fait un choix dont elle a remis les conséquences à Dieu. Si je dois périr, eh bien je périrai. Or, ça, c'était vraiment une bonne décision. Alléluia. Prenons un dernier exemple qui est tiré de l'Ancien Testament. La scène se passe à Babylone, où le peuple juif est alors en exil. Nebuchadnezzar, appelé aussi Nebuchadnosor, règne. Il fait ériger une statue en or et il ordonne à tout le peuple de s'incliner devant elle au son des trompettes. Or, Shadrach, Meshach et Abednego s'y sont opposés totalement, car ils n'adorent que le seul vrai Dieu, celui d'Israël. Sur ce, Nebuchadnezzar ou Nebuchadnosor les a menacés de les jeter dans la fournaise ardente s'ils refusent de s'exécuter. Et voici leur réponse. Notez Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. Il est dit: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as élevée. C'était de la folie pure que s'affirmer « Nous croyons que notre Dieu nous délivrera, mais même s'il ne le fait pas, eh bien nous ne servirons pas tes dieux. » Or, ils ignoraient comment les choses allaient tourner. Dans un certain sens, ils disaient la même chose que Esther. Si nous devons périr, eh bien nous périrons. À l'exemple de Joab et d'Abishaï, ils s'en sont remis à Dieu pour le résultat final. Que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. C'est ce qu'il fallait faire. Il est juste de prendre des risques pour la cause de Dieu. L'apôtre Paul est un des plus grands preneurs de risques du Nouveau Testament. Imaginez-le sur le chemin de Jérusalem, après avoir souffert des années durant, au nom de Christ, dans presque tous les lieux de séjour. Il s'en était remis au Saint-Esprit pour se rendre à Jérusalem. Notez Actes chapitre 19, verset 21. Il avait recueilli des fonds destinés aux pauvres et il souhaitait s'assurer de l'équité de leur répartition. Mais quand il est arrivé à Césarée, voilà qu'un prophète du nom d'Agabus, descendu de Judée, s'est lié symboliquement les mains et les pieds avec la ceinture de l'apôtre Paul et a dit ceci. Notez Actes, chapitre 21, verset 11. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront aux mains des païens. En entendant cela, les croyants ont tous supplié l'apôtre Paul d'annuler sa visite à Jérusalem, mais Paul, il leur a répondu: que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Mais je suis prêt. Non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le saint nom du Seigneur Jésus. Actes chapitre 21, verset 13. Notez maintenant Actes chapitre 21, verset 14. Ce verset révèle que ses amis ont fini par céder, comme il ne se laissait pas persuader. Nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. En d'autres termes, l'apôtre Paul était convaincu que son séjour à Jérusalem était nécessaire pour la cause de Jésus-Christ. L'apôtre ignorait les détails de la tournure que prendraient les événements. Arrestation et souffrance sûrement. Et après, la mort, la prison, l'exil. Personne ne savait. Que restait-il à dire? Ils sont tous parvenus à la même conclusion. Que la volonté du Seigneur soit faite, ou pour emprunter les paroles de Joab, que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. C'est vraiment, vraiment ce qu'il fallait faire. En fait, toute la vie de l'apôtre Paul a consisté à prendre des risques élevés les uns après les autres. En Actes, chapitre 20, verset 23, il a dit ceci. De ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent, mais il ne savait jamais sous quelle forme ces difficultés se présenteraient, ni à quel moment ou par le biais de quelle personne. L'apôtre Paul avait décidé de risquer sa vie à Jérusalem, pleinement conscient du danger qui le guettait. Ce qu'il avait précédemment enduré ne lui laissait aucun doute sur ce qui pouvait se produire à Jérusalem. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24 jusqu'au verset 28. Il avait dit, rappelez-vous, 5 fois j'ai été reçu des Juifs et j'ai reçu 2, les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai même été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères. J'ai connu le travail et la peine, exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Oh là là, c'est la totale. Que faut-il comprendre par là? L'apôtre Paul ne savait jamais d'où viendrait le prochain coup. Chaque jour, il mettait sa vie en danger pour la cause de Jésus-Christ. Oui, il n'avait pas peur. S'il vivait aujourd'hui de distribuer des Nouveaux Testaments, d'essayer, d'atteindre par tous les moyens ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et croyez-moi ou pas, le 90% des gens autour de nous ne sont probablement pas sauvés et ils seront totalement perdus. si rien ne se passe entre-temps. En effet, les routes n'étaient pas sécurisées. De plus, il ne pouvait compter sur ses propres compatriotes. Les païens n'étaient pas davantage une valeur très sûre. Les villes n'étaient pas sans risque. Le désert n'était pas un lieu très sûr, pas du tout. La mer n'était pas sans danger. L'apôtre Paul n'était même pas à l'abri chez ses soi-disant frères et sœurs chrétiens. La sécurité était donc un mirage. Elle n'existait pas pour l'apôtre. Il y avait, pendant la guerre de Hitler, des gens qui allaient à l'église, évidemment, mais la plupart d'entre eux ont dénoncé terriblement, affreusement, horriblement, tout juif qu'ils connaissaient, même si c'était la porte à côté de chez eux. Vous n'avez pas besoin de me croire. Mais, croyez-moi, je ne dirai pas cela à la légère. Un choix s'offrait donc à l'apôtre Paul, soit il gâchait sa vie, soit il vivait en prenant des risques. Le choix de prendre des risques a été délibéré. Il a dit dans Actes chapitre 20, verset 24, « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » L'apôtre Paul ne savait jamais ce que lui réservait la journée, mais le chemin du calvaire l'appelait. Et voilà pourquoi il était prêt à risquer sa vie chaque jour. Et il a fait le bon choix. Aujourd'hui, il y a des missionnaires, hommes et femmes, dans certains pays arabes, et croyez-moi, ils risquent leur vie chaque jour, ainsi que leurs enfants. Je n'ose même pas vous dire, parce que vous me croiriez menteur, toutes les horreurs qu'il arrive à certains d'entre eux. Jamais vous pourrez me croire, tellement que c'est terrible. Jésus est très clair sur ce point-là. Il a dit par exemple, notez Saint-Luc chapitre 21, verset 16, « Vous serez livrés même par vos propres parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et on fera mourir plusieurs d'entre vous. Plusieurs est ici le mot clé. On fera mourir plusieurs d'entre vous. Cette affirmation plonge la vie des disciples ici-bas dans une grande incertitude. Certes, tous ne mourront pas pour la cause de Jésus-Christ, mais tous ne resteront pas en vie non plus. Certains mourront et d'autres vivront. Voilà ce que je veux dire en parlant de risque. Cette ignorance face à la tournure des événements dans notre vie terrestre, elle est voulue par Dieu. Et c'est pourquoi sa volonté est que nous prenions des risques pour la cause de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. La vie n'a pas été facile du tout pour Jésus. Et il a déclaré qu'elle serait dure pour ses disciples aussi. Il a dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Saint Jean, chapitre 15, verset 20. Aussi l'apôtre Pierre a-t-il averti les églises que les épreuves étaient choses normales. Il a dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prendrez aux souffrances de Jésus, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Jésus, eh bien vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, oui, l'Esprit de Dieu, elle repose sur vous. Premier épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. Chers amis, comment gâcher 40 années et des milliers de vies? Que se passe-t-il lorsque le peuple de Dieu reste prisonnier du leurre attrayant de la sécurité? Que se passe-t-il lorsqu'il cherche à fonder son existence sur ce mirage qui est un leurre? Des vies vont être gâchées. Vous rappelez-vous un moment où cela s'est produit? Cela faisait moins de 3 années que le peuple d'Israël avait donc été libéré d'Égypte, c'est bien cela, et ceci par la puissante main de Yahvé l'Éternel. Il se trouvait à présent aux abords, le peuple, aux abords de la terre promise. C'était donc quelque chose de merveilleux. Aussi l'Éternel a dit à Moïse, « Envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père et tous seront des principaux d'entre eux. » C'est écrit dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 2. Moïse a donc envoyé Caleb et Josué, ainsi que 10 autres hommes. 40 jours plus tard, ils sont revenus, chargés, écoutez bien, d'énormes grappes de raisin, suspendues à une perche tenue par 2 d'entre eux. Caleb a lancé à son peuple un appel rempli d'espoir. Montons, emparons-nous du pays, et nous y serons vainqueurs. Nombres, chapitre 13, verset 30. Mais les autres ont protesté. Mais ils ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est beaucoup plus fort que nous. Nombres 13, verset 31. Caleb n'est pas parvenu à renverser le mythe de la sécurité. Le peuple s'accrochait à ce mirage attrayant, à l'idée qu'il existerait une façon de vivre sûre en dehors du chemin d'obéissance qui honore Dieu. Il a murmuré contre Moïse et Aaron et a même décidé de retourner en Égypte. Josué a tenté de lui faire prendre conscience de son terrible égarement. Notez Nombre chapitre 14, versets 7 à 9. Je vous supplie de lire cela attentivement chez vous, s'il vous plaît. Cependant, Josué, il n'est pas non plus parvenu à briser le mythe de la sécurité. Le peuple était imprégné de la notion illusoire d'un monde très sûr. Il a cherché même, ils ont cherché à lapider Caleb et Josué. Le résultat, eh bien des milliers de vies gâchées et des années ont été perdues. Le refus de prendre le risque de combattre les géants du pays de Canaan était sans doute une erreur. Quel gâchis nous provoquons lorsque nous refusons de risquer notre vie pour la cause de Dieu. J'ai déjà cité dans ce chapitre, dans ce CD d'aujourd'hui, vous l'avez compris, le verset de Saint-Luc, chapitre 21, verset 16, où Jésus a dit à ses disciples, « On fera mourir plusieurs d'entre vous, mais je n'ai pas fait mention de la promesse qui suit, car vous serez haïs, sachez-le, de tous, tout simplement à cause de mon Saint-Nom. Mais pas un cheveu, un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. » Saint-Luc, chapitre 21, verset 17 à 18. Ça, c'est un de ces paradoxes troublants que l'on rencontre dans les Saintes Écritures. On fera mourir plusieurs d'entre vous, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Va comprendre. Que sommes-nous censés de comprendre là-dessus? Quel message Jésus cherche-t-il à nous communiquer lorsque il a déclaré « Allez-y, prenez le risque de l'obéissance, on fera mourir plusieurs d'entre vous, d'accord, mais sachez que pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. » Je pense que le meilleur commentaire de ces versets se trouve en Romains, chapitre 8, verset 35 à 39, où il est dit ceci, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Comme il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le long du jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Comparons donc ces paroles terribles et merveilleuses à la fois avec celles prononcées par Jésus. On fera mourir plusieurs d'entre vous, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Tout comme Jésus, l'apôtre Paul affirme que l'amour de Christ a pour nous, qu'il a pour nous, cela n'élimine pas les difficultés, mais pas du tout. Bien au contraire, et oui, notre attachement à Jésus est porteur, souvent, de beaucoup de souffrances. L'apôtre Paul pose lui-même une question au verset 35 de Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Serait-ce la détresse? Serait-ce l'angoisse, la persécution, la faim? Serait-ce le dénuement, le danger ou l'épée? Il apporte la réponse. Non, rien, ni personne. Toutefois, ne passons pas à côté de ce que implique sa question. La raison pour laquelle ces choses ne nous sépareront pas de l'amour de Jésus, cela ne réside pas dans le fait qu'elles n'arriveront jamais à ceux qui sont aimés de Dieu. Elles leur arrivent effectivement. La citation par l'apôtre du psaume 44, verset 22, le confirme totalement. Il est dit, c'est à cause de toi, oui, que on nous met à mort tout le long du jour, qu'on nous regarde comme nous, si nous étions des brebis destinées à la boucherie. En d'autres termes, l'amour de Jésus pour nous ne nous épargnera jamais la souffrance. Le risque est donc réel. Tout n'est donc pas tout à fait rose. Chers amis, que voulait dire Jésus lorsqu'il affirmait que toutes ces choses, la nourriture et les vêtements, nous seraient données dès lors que nous rechercherons le royaume de Dieu en premier? La même chose que lorsqu'il a déclaré « On fera mourir plusieurs d'entre vous, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. » Saint Luc, chapitre 21, versets 16 à 18. Ce qu'il voulait dire, écoutez bien la suite, c'est que nous disposons absolument de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté et pour connaître le bonheur éternel et suprême en lui, avec lui, au ciel. Alléluia. Une question donc, quelle est la quantité de nourriture et de vêtements nécessaires? Nous devrions nous demander, nécessaire à quoi? Nécessaire à notre confort et de surplus? Non, non, non. Jésus n'a pas promis une vie de confort. Nécessaire pour nous épargner peut-être la honte? Eh bien non plus. Jésus nous a demandé de supporter la honte pour l'amour de son saint nom et avec joie. Nécessaire pour nous permettre de rester en vie? Ça non plus. Il ne nous a jamais promis de nous épargner la mort, car la persécution atteint même les croyants, même le juste. Certains chrétiens sont exécutés, tandis que d'autres meurent de maladie. C'est ce qui a amené l'apôtre Paul à écrire, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains, chapitre 8, verset 23. Ce que Jésus voulait dire, c'est que notre Père céleste ne permettra jamais, jamais que nous soyons testés au-delà, au-delà, avez-vous entendu, de nos forces. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. En tant qu'enfants de Dieu, si nous avons vraiment besoin d'un morceau de pain pour garder notre foi au milieu de l'épreuve du cachot et de la famine, nous le recevrons. Cela dit, Dieu ne nous a pas promis du tout une quantité de nourriture suffisante pour assurer notre confort ou notre maintien en vie. Il a simplement promis la quantité suffisante pour nous permettre de lui faire confiance et d'accomplir sa volonté. Il y a de nos jours, sachez-le, et la télévision, les journaux le confirment, des millions de millions d'extrêmes pauvres, des gens de plus en plus pauvres, et qui manquent même d'eau et de nourriture. Vous pouvez me croire. Une petite anecdote. En me rendant chez le dentiste pour une rage de dents, j'ai pris ensuite un petit café au tea room à côté. Et là, à côté de moi, il y avait une dame dans les 60 ans. Elle était là avec ses deux Yorkshire. J'ai demandé poliment, car je la connaissais, votre mari qui est décédé avec vous, non, qui est décédé donc, excusez-moi, avez-vous eu beaucoup de chagrin quand il est mort? Elle a répondu, oh non, 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 car je vis beaucoup mieux et beaucoup plus librement maintenant. Et mes deux adorables chiens, ils dorment avec moi dans mon lit. J'ai demandé avec mon humour si elle aurait peut-être une petite place dans sa maison pour moi si je me trouvais en difficulté. N'y pensez même pas. Mon mari est mort. Eh bien, je n'ai pas versé une seule larme. Or, si un de mes adorables chiens venait à mourir, alors là, je sais que je vais faire une terrible dépression. Oui. Vous allez peut-être pas me croire, il y a des gens, je vous ai dit, de plus en plus pauvres, mais il y en a de plus en plus riches. Et leurs animaux, même si c'est un simple rat blanc avec des yeux rouges, eh bien, ils l'amènent dans des restaurants 5 étoiles où ils ont le meilleur du meilleur. C'est inimaginable. Et il leur confectionne des petits habits qu'ils achètent les yeux de la tête pour ces animaux. C'est authentique. C'est triste, chers amis. Lorsque l'apôtre Paul a fait la promesse suivante, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 4, verset 19, il venait juste déclarer, « Je sais vivre, même dans la pauvreté, mais je sais aussi vivre dans l'abondance. Je peux tout, cela signifie, je peux supporter la faim par celui qui me fortifie. Je peux supporter d'être privé de nourriture et de manquer de vêtements par celui qui me fortifie. En effet, c'est bien ce que a promis Jésus. Il ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Hébreux, chapitre 13, verset 5. Si nous avons faim, il sera notre pain de vie éternelle. si nous avons honte de notre dénuement, il sera notre parfait apparat de justice. Et si sous la torture, nous sommes amenés à hurler dans notre agonie, croyez-moi, il nous permettra jamais de maudire son saint nom et il nous restaurera notre corps meurtri pour qu'il connaisse une beauté éternelle. Alléluia. Oui, rien ne nous séparera jamais de l'amour de Jésus. Voilà notre réconfort et notre assurance dans toutes nos prises de risques pour Jésus. L'apôtre Paul demandait, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Romains, chapitre 8, verset 35. Sa réponse était négative. Autrement dit, aucune misère n'expérimentée par un chrétien authentique n'est synonyme d'interruption de l'amour de Jésus pour lui. L'amour de Dieu triomphe de n'importe quelle misère. Notez Romains chapitre 8, versets 38 à 39, où il est dit « L'affirme, on ne peut plus clairement » ce verset de Romains 8 affirme « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur bien-aimé. L'issue de chaque prise de risque, même si elle entraîne la mort, c'est le triomphe de l'amour divin. C'est cette conviction qui nous libère et qui nous permet de risquer notre vie pour la cause de Jésus. Il n'est absolument pas question d'héroïsme, de goût de l'aventure, de courage personnel, ni même d'effort visant à gagner la faveur divine. Ce qui est en cause, c'est une foi enfantine dans le triomphe de l'amour divin, dans la conviction que, à l'autre bout de nos prises de risques, pour la justice, il y a Dieu. Dieu qui continue à nous tenir fermement. Oh oui, nous connaîtrons la satisfaction éternelle en lui. Donc, rien n'aura été gâché. Mais il y a plus encore qu'une promesse qui nous soutient dans notre prise de risque pour Jésus. L'apôtre Paul demandait si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, verset 31. La réponse sous-entendue est personne. Ce qui revient à dire, si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Cela paraît très naïf, à prime abord. C'est comme si vous étiez décapité. Et que vous diriez, vous savez, au fond, je n'ai perdu aucun de mes cheveux. J'ai simplement été décapité. Non, cessons de prendre ça à la rigolade. Ces déclarations extrêmes, elles vont beaucoup plus loin que ce que nous avons pu exprimer jusqu'à présent. Encore plus loin que l'affirmation que la mort même est incapable de séparer les croyants de Jésus. Ce plus, découle de l'expression « plus que vainqueur ». Alléluia. Paul a écrit en effet, « Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Que signifie plus que vainqueur? Comment pouvons-nous être plus que vainqueurs lorsque nous prenons des risques pour Jésus et que nous nous sortons blessés parfois? Si nous osons des actes d'obéissance qui exaltent la valeur suprême de Jésus et que nous soyons confrontés à l'un des ennemis mentionnés au verset 35, la faim ou l'épée, que faut-il faire pour en sortir vainqueur? Réponse, c'est de ne pas être séparé de l'amour de Jésus, car l'adversaire a pour objectif de nous détruire et de nous séparer de Jésus et de nous amener à la ruine sans Dieu. Nous sommes vainqueurs si nous déjouons ses plans en demeurant dans l'amour de Christ. Dieu l'a promis. Nous prenons donc le risque de lui faire confiance. Mais que devons-nous faire pour ressortir plus que vainqueur? Oui, plus que vainqueur dans la confrontation avec la faim et l'épée. Du point de vue biblique, un vainqueur se contente tout simplement de vaincre ses adversaires, tandis que celui qui est plus que vainqueur, il les assujettit. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Utilisons les termes de l'apôtre Paul. Nos légères difficultés du moment présent, elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, elles produisent un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Nous pourrions considérer dans ce verset les difficultés comme étant un ennemi qui attaque. Comme l'apôtre les a-t-il affrontés? Oui. Comment a-t-il fait? Il n'a pas été séparé de l'amour de Jésus. Et de plus, il a fait de cette épreuve, pour ainsi dire, son esclave. Il a fait en sorte qu'elle contribue à sa joie éternelle. Les difficultés initialement adversaires de l'apôtre Paul ont servi ses intérêts en le préparant pour un poids éternel de gloire. L'ennemi est donc devenu un esclave. L'apôtre Paul ne s'est pas contenté de vaincre son adversaire. Il est sorti plus que vainqueur du combat. Les difficultés brandissaient leurs épées pour décapiter la foi de l'apôtre. Mais la main de la foi a saisi le bras des difficultés et l'a forcé à couper les attaches de l'apôtre Paul avec le monde. Les difficultés ont donc été détournées de leur objectif et ont été mises au service de la sainteté, de l'humilité et de l'amour. Satan avait projeté le mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est la promesse de Dieu qui nous donne la force de prendre des risques pour Jésus. Cela n'a rien à voir avec un élan d'héroïsme ou avec un désir d'aventure ou un courage au-delà de tout. C'est tout simplement une question de foi en Christ, la foi que en lui, Dieu fera tout ce qui est nécessaire pour nous permettre de prendre plaisir à célébrer éternellement sa grandeur. Tout bien destiné à nous encourager et tout mal déployé contre nous, nous aiderons finalement à tirer notre fierté uniquement de la croix, à honorer Jésus-Christ et à glorifier notre Créateur. La foi en ses promesses nous libère elles nous permettent de prendre des risques et de découvrir personnellement qu'il vaut mieux perdre la vie que de la gâcher. Ainsi donc, il est approprié de prendre des risques pour la cause de Jésus-Christ. Il est donc juste de faire face à l'ennemi tout en disant « Que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon, de servir le peuple de Dieu tout en affirmant « Si je dois périr, eh bien je périrai. » Il est juste donc de se tenir devant la fournaise ardente de l'épreuve en refusant de s'incliner devant les dieux de ce monde. C'est ce chemin-là qui mène à la plénitude de la joie et à des plaisirs éternels auprès de Dieu. Tout autre chemin, caractérisé par la sécurité et l'absence de risque, nous conduira à une issue fatale. Nous, nous cacherons le visage dans les mains pour confesser « Oui, malheureusement, j'ai vraiment gâché ma vie. » Chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour vous encourager personnellement, mais aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Le Seigneur nous dit « Quittez-vous et vous me trouverez, n'ayant rien à vous dans le sens de trop y attacher, alors vous y gagnerez constamment, car vous recevrez une grâce plus abondante dès que vous aurez renoncé à vous-même sans retour. Seigneur, en quoi dois-je me renoncer ? Et combien de fois ? Le Seigneur nous dit, toujours et à toute heure, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, il exige de nous un dépouillement sans réserve. Comment pourrait-il être à nous ? Et comment pourrions-nous, nous, être à lui, à notre Dieu trois fois saint, si nous ne sommes pas libres au-dedans et au-dehors de toute volonté propre. Plus nous nous hâterons d'accomplir ce renoncement, plus nous aurons de paix, et plus tu seras parfait et sincère, plus nous lui serons agréables, et plus nous obtiendrons du Seigneur. Il y en a qui renoncent à eux-mêmes, mais avec quelques réserves, et parce qu'ils n'ont pas en Dieu une pleine confiance, ils veulent encore s'occuper de ce qui les touche. Quelques-uns offrent tout, tout d'abord. Mais la tentation survenant, ils prennent et reprennent ce qu'ils avaient donné, et c'est pourquoi ils ne font presque aucun progrès dans la vertu. Si les uns ni les autres ne parviendront jamais à la vraie liberté d'un cœur pur, jamais ils ne seront admis à la douce familiarité du Seigneur qu'après un entier abandon et un continuel sacrifice d'eux-mêmes, sans lequel on ne peut ni jouir de lui, ni s'unir à lui. Le Seigneur vous le dit bien des fois, et il vous le redit encore. Quittez-vous, renoncez à vous, et vous jouirez d'une grande paix intérieure. Donnez tout pour trouver tout, ne recherchez et ne demandez rien, oui, demeurez fermement attaché au Seigneur, et tu ne seras pas déçu. Votre cœur sera libre et dégagé des ténèbres qui l'obscurcissent. Que vos efforts, vos prières, vos désirs n'aient qu'un seul objet, c'est d'être dépouillé de tout intérêt propre, de suivre Jésus-Christ et de mourir à vous-même afin de vivre pour lui éternellement. Alors, oui alors, s'évanouiront toutes les pensées vaines, les pénibles inquiétudes et les soins superflus. Maintenant, chers amis, nous allons terminer par la prière. Prions. Éternel Dieu, Père Saint, tu es le Dieu qui remplit le ciel et la terre. Tu te caches à nos yeux, obscurcis, sous le rideau des choses visibles, bien que, en même temps, tu nous sois tout proche, avec nous maintenant, en vie, par ton Esprit Saint, et nous affranchissons de la domination du périssable. Seigneur Dieu, fais-nous célébrer aujourd'hui, dans le calme intérieur, l'entrée du Christ Jésus dans le monde de la gloire. Père céleste, puissions-nous le contempler une fois celui que tu as envoyé, pour que par sa parole, il nous apporte la lumière et nous conduise vers toi, à travers ténèbres et détresse. Allons à sa rencontre. Bénissons-le, celui qui nous a aimés, et que, après toi, ô Dieu, nous l'aimions nous-mêmes comme notre meilleur ami. Oui, fais-nous demeurer toujours avec lui auprès de toi, là où tu te laisses contempler dans ta lumière totale. Que nous soyons prêts, sanctifiés, mûris, et quand viendra ton heure, laisse-nous, ô Seigneur, nous séparer sans frayeur d'un monde qui meurt et s'écroule, et laisse-nous pénétrer au séjour de l'éternelle félicité. Amen. Amen. Et rappelez-vous, chers amis, que Dieu vous aime. Oh oui. Et il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, là où vous êtes, je vous enlace et je vous embrasse tous. Et je vous dis, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.